Alors, si on empruntait la passe de Megiddo, on serait assez rapidement sur la plaine côtière au nord de Césarée-Maritime. Mais on va faire un détour par le Carmel, qui a beaucoup de choses à nous dire. Alors, on va prendre sur la droite, là, et on va prendre une route qui suit la bordure de la plaine d'Astrelon, au pied de cette région de collines, où sont les passes. Et bientôt, on va arriver au Carmel et on va grimper au point culminant du Carmel.
Alors ici, on est dans la montagne du Carmel. Et il y a un homme là qui a compris tout de suite les coordonnées topographiques du Carmel. C'est un homme qui avait les idées claires. Certains disent qu'il est français. C'est un certain Napoléon, vous avez entendu parler. Vous vous rappelez que la campagne de Hako, il était en Égypte. Et alors dans ses mémoires dictées par lui-même, tire ça de Adam Smith. Carmel, où nous sommes, se trouve liée aux montagnes de Naplouse. C'est comme ça qu'il appelle la Samarie là-bas. Mais elle en est séparée par un grand vallon. On voit ça très bien sur des cartes géologiques. Entre le Carmel, là, tout en vert, avec un petit point rouge, justement à l'endroit où nous sommes, qui s'appelle Mouchaka, ça veut dire le brasier. C'est peut-être pour ça qu'on a localisé ces sacrifices d'Élie. En tout cas, c'est le point culminant. Alors, Carmel, dit Napoléon, est lié aux montagnes de Naplouse, mais on est séparé par un grand vallon, qu'on appelle aussi dans la Bible la Shephela, comme la zone de colline entre la montagne de Juda et la plaine côtière. On a l'avantage de tourner le mont Carmel par la route qui suit la lisière de la plaine d'Esdrelon, au lieu que celle qui longe la mer arrive au détroit de Haïfa, passage difficile à forcer s'il était défendu. Il a pigé d'un seul coup, là. Les grandes armées qui viennent d'Égypte et qui continuent leur route, soit vers Damas, soit vers la Phénicie, là-bas, ne vont pas se taper contre le nez du Carmel. Elles empruntent l'une ou l'autre de ces trois passes que nous avons traversées perpendiculairement, la passe de Taanach, la passe de Megiddo, au centre, où on s'est longuement arrêté, la passe de Yokneam. Elles enfilent l'une ou l'autre de ces trois passes, et puis elles suivent la route, là-bas, sur le bas du Carmel, du côté de la plaine d'Esdrelon, là-bas à l'est. Alors, conséquence, le Carmel est complètement télescopé. Toute la circulation passe là-bas au sud. Et le Carmel apparaît comme une ligne à l'horizon quand on est loin, mais quand on est dedans, enfin, il y a tout un enchevêtrement de chaînes de montagnes. La végétation est très, très touffue. Elle reçoit les vents humides de la Méditerranée tout de suite. Et chose curieuse, le climat est complètement différent du désert. On y trouve les mêmes catégories de gens. Les réfugiés politiques, les bandits et puis les moines. C'est aussi une montagne mystique. Même faune humaine que dans le désert. Alors il y a toute une spiritualité du Carmel que Adam Smith résume dans cette simple phrase, c'est la montagne de la retraite et du choix. Et on va traiter ici d'un problème fondamental qui est tout au long de la Bible posé et qui est posé à chacun de nous, le problème de l'identité et de la culture. Bon, regardez cette carte géographique là. Au sud du Carmel, la côte est complètement rectiligne. Et puis, ça fait que le peuple qui habite au sud du Carmel n'est pas un peuple de navigateurs. Il n'y a pas de port naturel. Ils regardent la mer de loin depuis leur montagne. Ils voient cette côte de sable et ils disent, Dieu dit par le prophète Jérémie, ne me craindrez-vous pas, moi qui suis capable de maintenir le tohu-bohu par une simple ligne de sable, parce qu'il est plus monstrueux, parce qu'il est plus faible. Et les peuples conquérants ne sont jamais arrivés par cette côte sablonneuse. Ils ont conquis soit par l'Égypte, soit par là-bas la Syrie. Et puis c'est seulement ensuite qu'ils ont fait des ports artificiels comme Césarée Maritime, qu'on verra tout à l'heure, qui a été construit par Hérode et que nous décrivent le vieux Joseph et que les fouilleurs, que les archéologues mettent en valeur actuellement. Et alors au nord du Carmel, c'est tout à fait différent. La mer vient à la rencontre des hommes, la montagne pousse les hommes vers la mer et puis les îles sont comme des appels à la grande aventure. Et naît ce grand peuple, le plus grand des peuples navigateurs de l'Antiquité, le peuple phénicien. Et cette différence fait qu'il y a une amitié à base de complémentarité qui naît tout au cours de l'histoire, des données géopolitiques là, très importantes. On se promène dans les boucles de la bien-aimée, vous vous rappelez, on s'est promené sur son nez là-bas du côté de Damas. Tourner la tour du Liban, sortait vers Damas, c'était quel jour? C'était lundi. Maintenant on se promène dans sa chevelure. Ton chef se dresse semblable au Carmel et ses nattes sont comme la pourpre. La pourpre c'est la Phénicie. Et un roi est pris à ses boucles, c'est Hiram de Tyr, qui félicite David de la prise de Jérusalem, c'est le premier. Et puis l'amitié se développe et au temps de Salomon, Retenez, ça vaut la peine de lire quelques exemples ici. Le roi de Tyr envoya ses serviteurs en ambassade auprès de Salomon. Et alors on se fait des compliments, et puis on fait un grand contrat commercial. Parce que Salomon va fournir du froment, de l'huile, etc. Et puis le roi Hiram de Tyr va lui fournir du bois du Liban, de cèdre. Tenez, alors le roi Salomon, tenez, c'est intéressant pour les travailleurs étrangers ça. Le roi Salomon leva des hommes de corvée dans tout Israël. Il eut 30 000 hommes de corvée. Il les envoya au Liban, 10 000 hommes par mois à tour de rôle. Ils étaient un mois au Liban et deux mois à la maison. C'est pas mal, non? Un mois au Liban et deux mois à la maison. Alors, y a-t-elle, cette amitié est constructive, elle aboutit pas seulement à la construction du palais, mais même du temple. Mais alors, on a beau avoir être très amis, ben, la note, tôt ou tard, finit par arriver. Et au bout de 20 années, Salomon avait construit le temple et le palais royal, et Hiram de Tyr lui avait fourni du bois de cèdre, de genévrier, de l'or, tant qu'il en avait voulu. Le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram de Tyr vint pour voir les villes que Salomon lui avait données, et elles ne lui plurent pas. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces villes que tu m'as données, mon frère? Jusqu'à ce jour, on les appelle le pays de Kaboul. Et le roi Hiram envoya au roi 120 talents d'or. Et le pays de Kaboul, vous suivez, il y a des routes qui suivent le golfe de Haïfa, et vous trouvez facilement Kaboul dans cette région-là. C'est du côté de Tel Kishon que fouillent nos frères de l'école biblique. Là. C'est un pays qui a été aliéné par Salomon. Et actuellement encore, on m'a dit que les juifs religieux qui habitaient à Co, par exemple, ne faisaient pas enterrer à Co, parce qu'on n'est pas vraiment en Terre Sainte. Et Jésus, bon, tenez, on parle de Jésus qui va en terre païenne, il n'a pas dû aller très loin, du côté, il était dans la Décapole, à l'Est, il était aussi, vous connaissez l'histoire de la Syrophénicienne, ce serait dommage qu'on ne la cite pas là. Elle est rapportée par saint Marc et par saint Matthieu, et les nuances qu'il y a entre les deux textes sont très intéressantes. Partant de là, il s'envola dans le territoire de Tyr. Et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put rester ignoré. Car aussitôt une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle le priait d'expulser le démon hors de sa fille. Et il disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sait pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle de répliquer, de lui dire, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna dans sa maison et trouva l'enfant étendu sur son lit et le démon partit. C'est intéressant aussi pour voir comment Jésus a cette mentalité-là. Il y a d'abord le peuple élu, et c'est d'abord le peuple élu qui doit venir à la lumière, et puis ensuite être le témoin pour l'ensemble du monde. Dans saint Matthieu, là, quelques nuances intéressantes à relever au passage. Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon, et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le prier, fais-lui grâce. Elle lui poursuit de ses cris. Tout le monde dit, débarrasse-nous, tu pars un miracle près. À quoi il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas évident, cet élargissement universaliste. Ça viendra comme suite d'un drame dont nous allons suivre les étapes, d'une évolution, d'un progrès et d'un drame. Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Et lui répondit, il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, et justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et de ce moment, sa fille fut guérie. On a commencé ce matin par le récit de la synagogue à Nazareth, rappelez, et comment on écoute Jésus. L'homme n'a parlé comme cet homme, et puis il parle de Naaman, le Syrien, qui personnifie les païens qui viennent de l'Est. Il parle de la veuve au temps d'Élie, le païen qui vient de l'Ouest. Et à ce moment-là, il y a comme une espèce de réflexe là. C'est ce qu'on trouve dans ce peuple, le peuple élu, une sorte de peur panique. Dès qu'il sent son identité telle qu'il la conçoit menacée. Je crois qu'on va retrouver ça jusque dans saint Paul. Vous verrez tout à l'heure, quand nous arriverons à Jérusalem, nous dirons le discours de saint Paul. Là, on l'écoute pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'il dise qu'il a été envoyé aux nations. Et à ce moment-là, on jette de la poussière en l'air, cet homme-là n'est pas digne de vivre. C'est très étonnant de voir. Et nous chrétiens, hein, tout de suite, on serait tenté de faire du christianisme quelque chose de décroché des enracinements réels dans l'histoire et la géographie, et de faire notre religion une espèce d'idéologie qui plane, pas du mystico-gazeux. Moi, je crois que le point de rencontre du dialogue, c'est là. Entre des gens qui restent accrochés à leur identité et qui ont une peur panique de la perdre, et puis nous qui en faisons trop bon marché. Et c'est là que la rencontre doit se produire. Mais prenons ce problème de l'identité et de la culture, il me paraît extrêmement important. Vous avez vu ces conditionnements géographiques, cette amitié va se développer. Et après le schisme, lorsque le royaume du Nord qui avait sa capitale d'abord à Sichem, ensuite du côté de Galaad, ensuite à Tirsa, vous voyez plutôt à l'est du côté de la vallée du Jourdain, au temps d'Omri, le père de Akab, on va déménager la capitale vers l'ouest pour se rapprocher des Phéniciens. Au temps du roi Akab, qui règne de 874 à 853, on déménage la capitale qui était à Tirsa, chantée dans le Cantique des Cantiques, belle comme Tirsa. Et on déménage la capitale, Omri devint roi sur Israël. Il régna 6 années à Tirsa, sur la route qui descend de Sichem vers la vallée du Jourdain, puis il acquit de Shemer le mont de Samarie pour 2 talents d'argent. Il y construisit une ville que, d'après le nom de Shemer, possesseur de la montagne, il nomma Samarie. Je comprends Samarie, c'est Shomeron. Bon, Shomer, Shomeron. Enfin ça. Omri, fils qui déplaît à Dieu, etc. Et puis alors, Akab, fils d'Omri, fils qui déplaît à Dieu, fut pire que tous ses devanciers. La moindre chose fut qu'il imita les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Itobaal, roi des Sidoniens. Vous voyez, les alliances commerciales, culturelles, se consomment par des alliances matrimoniales. Et Akab, le fils d'Omri, se marie avec Jézabel, qui n'est rien moins que la fille du roi prêtre là-bas phénicien, fille d'Itobaal, roi des Sidoniens. Et alors, l'idolâtrie s'introduit jusque dans la cour des rois du Nord. Et vous voyez, là, on a une amitié qui est très belle, qui est très constructive, mais qui n'est pas sans danger. Et alors, c'est à ce moment-là que surgit, ici au Carmel, le prophète Élie, qui va convoquer l'ensemble du peuple et qui va lui dire « Jusqu'à quand allez-vous clocher les deux jarrets ?» Comme nous avons fait sur cette route de Crète, hein, on pourrait arriver ici, les tournants de la route nous font admirer de temps en temps la côte méditerranéenne, de temps en temps la plaine d'Estrelon, la clocher des deux jarrets. Alors il faut choisir. Tenez, Élie, on l'a rencontré au Sinaï, là, à l'Horeb, mais je crois que c'est bon de reprendre dès le début. Voir comment Dieu forme un homme pour intervenir d'une façon efficace dans l'histoire sainte. Regardez comment son recyclage, en quoi il va consister. Élie le Tisbite, en Galaad, dit à Akab, par le Dieu vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. Et arrêter la pluie sur le Carmel, il faut le faire. La parole de Dieu fut adressée en ces termes, « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit. » Quand Dieu suscite un homme pour avoir une action importante dans l'histoire, il commence par lui dire « Va te cacher ». Vous vous rappelez l'histoire de Moïse, 40 ans de vie cachée avant cette aventure. Jésus, alors 30 ans de vie cachée pour 3 ans de vie publique. Saint Paul, est-ce que vous avez déjà compté le temps qui s'écoule entre la conversion sur la route de Damas et puis le moment où Barnabé ira le chercher pour le conduire à Antioche? Je crois qu'on peut compter plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Et de régime, vous voyez, les lois de la fécondité. Et je crois que dans le domaine apostolique, elles sont encore plus vérifiables que dans les autres domaines. Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux de te donner à manger. Moïse va refaire toute l'expérience du peuple. Vous rappelez qu'on l'a fait dans le désert au rythme de la marche, là, comme le peuple au désert. Il va être dans un état de dépendance, de pauvreté radicale. Et puis alors là, il va connaître Dieu, comme le peuple l'a connu dans le désert. Et les énergies divines vont le remplir. Et il n'est qu'une cruche, mais ça c'est très important. Tous les saints ont fait cette expérience-là. Il partit donc, comme Dieu avait dit, et alla s'établir au torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain le matin et de la viande le soir. Vous voyez, on retrouve le rythme du récit de la manne, vous rappelez, au soir et puis au matin. Il buvait au torrent. Il arriva au bout d'un certain temps que le torrent sécha. Il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de Dieu lui fut adressée, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu y demeureras. Voilà que j'ordonne là-bas à une veuve de te donner à manger. Regardez cette humiliation, cet anéantissement. Il va devoir sa subsistance à une pauvre veuve qui est elle-même démunie. Il se leva à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il interpella et lui dit, apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche que je boive. Et comme elle allait la chercher, il lui cria, apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. Répondit par le Dieu vivant, ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. J'en suis à ramasser deux bouts de bois, je vais préparer cela pour moi et mon fils, nous mangerons et nous mourrons. Mais Élie lui dit, ne crains pas, va faire comme tu dis, seulement prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la face de la terre. Elle alla et fit comme elle avait dit, comme avait dit Élie. Ils mangèrent, elle, lui et son fils. La jarre de farine ne s'épuisa pas, la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que Dieu avait dite par le ministère d'Élie. L'homme de Dieu a besoin de faire l'expérience de Dieu, de connaître Dieu au sens biblique du terme, avant de surgir dans le monde. Et c'est pas fini ce recyclage. Après ces événements, il arriva que le fils de la maîtresse de maison tomba malade. Et sa maladie fut si violente qu'enfin il expira. Alors elle dit à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Tu es donc venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. Souvent, les épreuves, on les interprète comme on fait des sentiments de culpabilité. Il l'enleva de son sein, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur et dit, Seigneur mon Dieu, veux-tu donc aussi du mal à la veuve qui m'héberge pour que tu fasses mourir son fils? Il s'étendit trois fois sur l'enfant et il invoqua le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je t'en prie, fais revenir en lui le souffle de cet enfant. Dieu exauça l'appel d'Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie le prit, le descendit de la chambre haute dans la maison et le remit à sa mère. C'est la phrase qui est reprise dans l'histoire du fils de la veuve de Naïm. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. La femme lui répondit, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Vous voyez ce que c'est que comment Dieu prépare un homme de Dieu à intervenir dans l'histoire. Alors revêtu de cette force, bon, je passe, Élie va convoquer ici sur le Carmel, entre le paganisme phénicien et puis la religion authentique, le peuple, et lui dit il faut choisir. Bon, il le convoque ici dans la retraite, oui, c'est la montagne de la retraite et c'est la montagne du choix. Acab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux jarrets? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne put rien répondre. Élie poursuivit, moi je reste seul comme prophète de Dieu. Les prophètes de Baal sont 450. Donnez-nous de jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépècent, le placent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi je préparerai l'autre taureau, je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, ok. Élie dit alors aux prophètes de Baal, choisissez-vous un taureau et commencez. Car vous êtes les plus nombreux, tirez les premiers, messieurs les Anglais. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau, le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à minuit en disant, au Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux, et dit, criez plus fort, c'est un dieu. Il a des soucis, des affaires, il est en voyage, peut-être il dort, il se réveillera. Alors, chaque phrase ici est un pavé à la religion phénicienne. Il a des soucis ou des affaires, les grands commerçants phéniciens, là. Il est en voyage, les grands navigateurs. Peut-être il dort, il se réveillera. Ça, c'est le mythe d'Adonis, hein, qui meurt en hiver et qui se réveille au printemps, la religion naturiste. Ils crièrent plus fort, se tailladèrent selon leur coutume avec des épées et des lances qu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de Dieu qui avait été démoli. Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui Dieu s'était adressé en disant, ton nom sera Israël. Il construisit un autel au nom de Dieu. Il fit un canal de tontance de 2 boisseaux de semences autour de l'autel. Il disposa le bois, dépeça le taureau, le plaça sur le bois. Puis il dit, emplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et ils firent ainsi. Il dit, doublez. Et ils doublèrent, il dit, triplez. double et triple R, et l'eau se répandit autour de l'autel, et même le canal fut rempli d'eau. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et qui convertis leur cœur. » Et le feu de Dieu tomba et dévora l'holocauste et le bois, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit, les gens tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'eux n'échappe. » Il les saisit, Élie les fit descendre près du torrent du Kishon, là-bas en bas, et il les égorgea. Évidemment, ce n'est pas normatif pour pratiquer le dialogue actuellement. Non, c'est pas comme ça qu'on traite nos frères hérétiques. Non, on dialogue, et vous avez tous vu comment le pape s'y prenait maintenant à Assise, pas pour discuter. Mais nous sommes à une étape, encore une fois dans la Bible, d'une progression. Voyez, on a vu comment le peuple arrivant en terre promise pratiquait l'anathème, n'ayant pas d'autre moyen de garder sa consistance personnelle dans l'abomination idolatrique. Et puis au fur et à mesure qu'il croit, qu'il grandit, il trouve de la consistance dans sa personnalité, il devient capable d'accueil. Et maintenant, si on est vraiment chrétien, alors nous parlerons de saint Paul, tout à l'heure il part répondre à l'attente des humains en disant « Tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. » Il y a une puissante intégration dans le Christ qui fait qu'un chrétien ne doit avoir aucune pusillanimité devant tout ce qui lui est proposé au nom de l'art, de la science, de la psychanalyse, de tout ce que vous voudrez. Mais encore faut-il qu'il ait une personnalité capable d'intégration. Sentez le problème ? Eh bien, toute la Bible, justement, nous fait encore observer tout un développement. On est appelé à intégrer et à donner sa pleine valeur à tout ce qui a été créé, tout ce qui est le plus beau. Et en même temps, il ne faut pas oublier le problème de la consistance personnelle. Ça fait penser, dans mon pays, à un romancier autrefois qui s'appelait Van der Merch. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de tuberculose. Et dans les saunas, alors, souvent, on gavait les gens qui étaient atteints de la tuberculose. Et résultat, il mourait un peu plus vite que prévu. Alors, il a fait l'apologie d'un certain docteur Carton, là, qui disait, mais attention, vous voyez pas les bêtises que vous faites. Ces gens qui ont le tempérament affaibli, il faut commencer par renforcer les possibilités d'intégration, d'assimilation de leur corps au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'ils deviennent forts, ils deviennent capables d'intégrer. Eh bien, nous, c'est la même chose. Actuellement, on risque d'être complètement disloqué par tout ce qui nous est offert à droite et à gauche. Et plus urgente que jamais apparaît la nécessité d'aller au Carmel ou au désert pour retrouver de temps en temps de la consistance dans l'être qui nous permette d'accueillir, d'intégrer, de digérer tout cela. Vous sentez ce problème de l'identité et de la culture ? Oui, alors l'alliance est rétablie. Et monte, mange et bois, dit Élie à Acab, car j'entends le grondement de la pluie. Pendant qu'Acab montait pour manger et boire, Élie monta vers le sommet du Carmel, où nous sommes, il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Tenez une position pour ceux qui cherchent des positions pour la prière, là, c'est très fraîche actuellement. Il dit à son serviteur, monte donc et regarde du côté de la mer. Il monta, regarda et dit, il n'y a rien du tout. Élie reprit, retourne 7 fois. C'est toujours comme ça dans la Bible, il faut savoir attendre. À la 7e fois, le serviteur dit, voici un nuage, petit comme une main d'homme, qui monte de la mer. Alors Élie dit, monte, dira Acab, attelle et descend pour que la pluie ne t'arrête pas. Sur le coup, le ciel s'obscurcit de nuages et de tempêtes, il y eut une grosse pluie. Acab monta en char et partit pour Yisraël, en traversant la plaine d'Azrelon. Vous avez la géographie, là on la connaît maintenant, on l'a fait kilomètre par kilomètre. La main de Dieu fut sur Élie, il saignit ses reins et courut devant Acab jusqu'à l'arrivée à Yisraël. C'était vraiment un coureur de fond, il arrive avant le char. Alors voyez-vous, ici, nous allons continuer notre chemin. Et Paul nous apparaît comme quelqu'un qui va au terme de cette progression. Et elle n'est jamais continue. Il y a des moments dans l'existence où on est capable d'intégration. Puis d'autres moments où on sent très bien qu'on est complètement désintégré. Il faut retrouver dans la retraite, comme au Carmel ou dans le désert, sa consistance. Mais alors, il faut devenir normalement chrétien. Et à ce moment-là, alors, répondre à l'attente des îles lointaines comme saint Paul dont nous raconterons l'histoire. Tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et c'est du pays des Phéniciens là-bas, c'est le site Pierry à l'embouchure de l'Oronte, le grand port, c'est le site Pierry, le port de Antioche. C'est de là que vont partir les grands voyages qui vont mener saint Paul à Éphèse, à Corinthe, à Rome. Et les Actes des Apôtres s'arrêtent à Rome parce que c'est alors le monde entier. Voilà, c'est tout, encore une fois, oui. Ce qui nous est proposé, c'est pas du figé, c'est pas du tout fait, ce sont des itinéraires, une fois de plus, voilà. Chacun est interpellé tel qu'il est, là où il en est, appelé à faire en surface et en profondeur les détours qu'il a à faire pour être sur la trajectoire de Dieu qui passe, et puis jouer ce jeu de l'identité et de la culture.
Maintenant, on va rejoindre Saint-Paul à Césarée Maritime. On va pas passer à Haïfa. On va trouver une petite route là qui va nous faire connaître le Carmel. Petite route qui descend sur la plaine côtière aux environs de Atlit et on sera très rapidement arrivé à Césarée Maritime.